Bon, eh bien, nous allons accueillir à présent Christophe Lorenz, auteur, journaliste.
Bon, bah, bonjour, merci de m'accueillir. Moi aussi, c'est une première présentation sur trois courants. Le post-punk, la cold wave et la musique industrielle, en me concentrant sur la scène française des débuts. Donc trois courants que je qualifierais de V du punk et séminaux parce qu'ils ont vraiment semé les germes d'autres choses. Pour commencer, l'idée donc c'est de définir ici de façon générique ces trois courants. Le post-punk, qu'on appelle aussi l'after-punk, surtout en France bizarrement, la cold wave et la musique industrielle. Donc, comme je l'ai dit, ce sont trois courants dérivés du punk, donc qui ont suivi de près la première vague punk, la première vague originelle, et qui restent finalement, je vais essayer de le démontrer, punk dans le fond, on va dire dans l'esprit, même s'ils ne sont pas vraiment dans la forme. Donc, j'évoquerai d'abord le post-punk, ce qui va le caractériser au niveau musical, selon moi, hein, puis le fait que une bonne partie des artistes issus du post-punk ont connu finalement un succès critique et commercial que n'avaient pas forcément connu les artistes punk français des origines. Après, je parlerai rapidement du rock gothique qui s'est affirmé comme une sous-branche assez importante du post-punk mais qui est un peu plus tardive en France. Dans une deuxième partie, je traiterai de la cold wave, du fait qu'il s'agit d'un courant qui s'est tout particulièrement développé en France, qui est presque une exception française, on pourrait dire, du fait aussi qu'il s'agit d'un courant qui véhicule une forte mélancolie, un grand désenchantement, ça c'est, on le sait, et enfin aussi qui est un courant qui est traversé par de nombreuses références artistiques. Et dans la troisième dernière partie, j'évoquerai donc le cas de la musique industrielle, qui est caractérisé aussi par une grande radicalité musicale et par une attitude là aussi farouchement indépendante, complètement do it yourself, et avec aussi des thématiques particulièrement sulfureuses. Donc, pour ce qui est du post-punk, auquel on peut accoler les termes de raideur et de dépouillement. Alors, pour le terme post-punk, ce sont apparemment les journalistes musicaux anglais John Savage, Nick Kent et Paul Morley qui écrivaient à l'époque respectivement dans les hebdomadaires Sounds et New Musical Express, qui ont utilisé apparemment les premiers le terme de post-punk à partir de 1978. Il s'appliquait alors, selon eux, surtout à des groupes issus de la première vague punk, mais dont la musique avait évolué rapidement, comme The Slits, Stranglers, Wire, et puis aussi pour des groupes comme Public Image Limited, le groupe de John Lydon des Sex Pistols, ou Magazine, qui était fondé par Howard DeVoto des Buzzcocks. En France, c'est Yves Adrien, le journaliste, qui a lancé le terme d'afterpunk dans un article de Rock and Folk qui est daté de 1978, et qui évoquait à l'époque la trilogie berlinoise de David Bowie et le groupe allemand Kraftwerk. Le même Yves Adrien parlera d'ailleurs ensuite de culture ou de musique novo, avec un tréma sur le haut, dans son fameux livre « Novo Vision, les confessions d'un cobaye du siècle », toujours là aussi pour définir donc des artistes émergents qui associaient l'intensité du rock, l'insolence du punk et un goût déjà marqué pour les expérimentations sonores et pour les thématiques futuristes. À partir de 1978, de nouveaux artistes qui étaient punk à l'origine, au tout début, ou qui vont démarrer vraiment la musique à ce moment-là sous l'impulsion de la première scène punk, vont chercher rapidement à affiner la recette musicale du punk. Comme le disait Yves Adrien en 1980, le punk était synonyme de rébellion, le novo, ou l'after-punk, est synonyme de mutation. Donc, musicalement, le post-punk ou l'after-punk va se caractériser globalement par ses premiers groupes par un ralentissement du rythme par rapport au punk d'origine, des parties de guitare qui vont être plus crispées, incisives. Il y a une basse aussi qui est souvent très en avant et qui est finalement plus mélodique que rythmique et des ambiances déjà très tendues, très froides. Il y a toujours dans le post-punk une grande intensité, un côté très nerveux et percutant, mais c'est une énergie qui est finalement beaucoup plus canalisée, moins brute que dans le punk originel. Il y a aussi l'utilisation de sonorités dissonantes, voire carrément brutistes, qui est aussi un élément marquant donc, de ce courant, tout comme l'introduction d'instruments qui sortent du schéma rock et punk même classique, comme l'arrivée du saxophone, le synthétiseur ou la boîte à rythme. Le post-punk donc va être en fait moins frontal que le punk, qui fait preuve d'une forme de distanciation, d'intellectualisation dans ses ambiances, dans ses textes, dans ses visuels. Toutefois, bon, les groupes post-punk vont quand même conserver un caractère frondeur, subversif, même si on n'est plus là dans la, on l'a dit d'ailleurs ce matin aussi, on n'est plus là dans la provocation ou l'agression pure. Là, on est dans l'ironie, dans le cynisme, dans le second degré. Les groupes les plus emblématiques du post-punk originel en France sont donc Marquis de Sade, qui s'est formé à Rennes en 77. Taxi Girl, qui est né à Paris en 1978, une petite aversion. Casse Product, qui est né à Nancy en 1980. Orchestre Rouge, qui s'est formé à Paris en 1980. Et Charles de Gaulle, aussi parisien, et qui a sorti son premier album, qu'on voit là, en 1980. Donc, dans la partie suivante, on va parler du fait que ces groupes sont un peu passés en quelque sorte des squats aux charts, puisqu'ils ont connu un succès public et une reconnaissance critique assez rapide, finalement, en France. Hein. Les groupes post-punk étaient plus abordables musicalement, plus présentables que les premiers groupes punk, et ils vont donc bénéficier d'un succès public et critique notable. Certains vont signer rapidement sur des grosses maisons de disques, d'autres vont même générer des tubes. Hein. Progressivement, les groupes post-punk vont séduire un nouveau public plus large, ils vont se confondre même avec ce qu'on appelle de façon générique aujourd'hui, la New Wave, qui va dominer le marché du disque hein, pendant quasiment toutes les années 80, hein, qui est un terme très, très, très générique. On notera ainsi que donc, les artistes emblématiques du post-punk que j'ai cité tout à l'heure sont signés pour la plupart dès leur début sur d'importantes maisons de disques, comme EMI pour Marquis de Sade et Casse Product, et Capitol pour Taxi Girl. Et donc, l'exemple de Taxi Girl est assez parlant, puisque le groupe a connu le succès commercial dès 1980 avec les titres Mannequin et surtout Chercher le garçon, hein, qui a été vraiment un énorme tube. Voilà, je vois que tout le monde connaît. Et mais faut pas se laisser avoir par les sonorités pop et dansantes de ces morceaux, qui ont tendance finalement, ce côté pop et dansant a tendance à faire oublier le côté très sulfureux du groupe, qui pour le coup était encore dans une tradition punk, avec des prestations scéniques souvent très provocantes, comme celle où le chanteur Daniel Darc s'est réellement ouvert les veines sur scène. Et puis il y a toute une histoire très tumultueuse autour du groupe, marquée par les excès divers, drogue, alcool, et au final la mort par overdose, enfin pas au final, mais la mort par overdose du batteur Pierre Wolfson en 1981. Donc après, ça nous amène à ce côté sombre, au côté obscur du post-punk, c'est le rock gothique, plus particulièrement en France. Donc le post-punk va comprendre finalement une multitude d'artistes très variés qui vont évoluer vers des styles très divers, hein, plus pop, plus expérimentaux, voire même funk, électronique. Là, on perd de vue vraiment le punk. Il y a un autre style qui va vraiment découler du post-punk, c'est le rock gothique. Donc c'est un style qui se caractérise par un côté très théâtral, aussi bien au niveau des prestations scéniques que de la façon de chanter. Il y a bien sûr des ambiances très sombres, hein, d'où le terme de gothique, souvent influencé par les films d'épouvante, des textes assez oniriques, abstraits, surréalistes, des sonorités qui ont un très large spectre, ça peut passer du très grave au très aigu, des rythmes qui sont souvent tribaux, pour ceux qui ont des batteurs, il y a beaucoup de roulements de batterie, et bien entendu, ce qui marque dans le rock gothique, c'est le look très travaillé, avec ce noir dominant, du maquillage, des coiffures très élaborées, des résilles, des dentelles, mais aussi du cuir. C'est une sorte de mélange entre le look glam rock et le look punk, finalement, mais toujours, bien sûr, en version ténébreuse. Donc, en France, les premiers artistes qu'on peut associer à la scène gothique sont Neva, qui s'est formée en 1980 à Saint-Quentin, les Tétines Noires, qui ont quand même été formées en 81 à Cherbourg, Jade Viau, qui est née à Paris en 82, et on peut citer aussi Les Martyrs et Les Maîtres, deux groupes parisiens qui sont nés en 1980, bon, qui n'ont pas existé très très longtemps, ni été très très productifs. La scène gothique, en fait, a surtout connu un retour dans les années 90, et c'est là où finalement elle a été le plus productive. Donc un peu lié à cette scène gothique, il y a la Cold Wave, alors pour en donner une définition, je vais laisser la parole à mon collègue Max Lachaud, qui dans le tome 2 de l'ouvrage collectif Carnet Noir a donné une définition particulièrement éloquente de ce qui caractérise les artistes appartenant à ce courant Cold Wave. Donc je cite, « Ils explorent l'aliénation et l'oppression individuelle avec un souci esthétique évident et à grand renfort de synthétiseurs, basses vrombissantes, boîtes à rythme, batteries électroniques, sonorités graves et bruit industriel. La lancinance du vide se ressent dans les voix monocordes et douloureuses, des textes qui ne sont qu'un collage de mots dénués de tout sens, des bruits et des sons qui frisent souvent l'expérimentation. Néanmoins, si certains de ces groupes, dans leur dimension à fleur de nerf, peuvent apparaître difficiles d'accès, cela ne les empêche pas d'être dansants ou de faire preuve d'un humour noir, grotesque et cérébral. » Je pense que là, on a tout dit sur la Cold Wave, au niveau de la définition. Donc, en fait, le terme Cold Wave, encore une fois, a manifestement été utilisé en premier par les critiques anglais de la fin des années 70, mais finalement, il a surtout été utilisé en France et aussi en Belgique, en Suisse. En tout cas, ce courant est assez globalement reconnu comme étant spécifiquement français, même si musicalement, on peut dire que ses pionniers sont anglo-saxons, puisqu'on pourrait citer Joy Division et The Cure comme les premiers, les pionniers vraiment de ce style. La scène Cold Wave française est particulièrement riche et variée. Elle est vraiment très spécifique, avec des groupes très nombreux, avec une personnalité très affirmée qui les distingue vraiment des modèles étrangers. Hein. Donc parmi les premiers artistes qu'on peut classer dans ce courant Cold Wave, on citera en France donc Complot Brunswick, qui s'est formé à Rennes en 1980, Norma Loy, qui est née à Dijon en 1981, Tanit, qui s'est créée à Paris en 81, Martin Dupont, qui est né à Marseille en 81 aussi, et Claire Obscur, fondée à Creil, toujours en 81. Alors, même si la Cold Wave possède des points communs avec le punk, donc pour le côté aussi complètement indépendant, do it yourself, la technicité aussi très limitée, parce que souvent ceux qui ont démarré des groupes Cold Wave ne savaient pas forcément très bien jouer, et parce qu'elle est née aussi juste après le punk, elle a été lancée par l'explosion punk. Donc la Cold Wave, en fait, est surtout tournée, elle, vers l'expression des émotions personnelles, plus que vers un quelconque discours politique ou social, comme l'était le punk ou la Oi. Entre la fin des années 70 et le début des années 80, on est là, en France, en pleine période de ce qu'on a appelé, en France et dans le monde, la Seconde Guerre froide. On est aussi dans une période de crise économique en raison d'un choc pétrolier. Et pour beaucoup de jeunes de cette époque, toutes les utopies des années 70 ont vraiment laissé la place aux illusions. C'est le désenchantement. Comme le dit Jean-Éric Perrin dans l'ouvrage collectif de 2008 des jeunes gens modernes, « Peace and love était devenu un concept rance ». Donc, sans complètement généraliser, on peut quand même noter que le post-punk, la cold wave et le rock gothique en France sont souvent le fruit de jeunes artistes issus des classes moyennes, voire des classes aisées. Et on peut même remarquer que la cold wave, à l'instar d'ailleurs du rock gothique, est une musique qui a souvent été créée par des étudiants en art, en lettres, qu'on a d'ailleurs souvent qualifié pour ça de dandy, parce qu'ils faisaient preuve d'un mélange d'érudition et de distinction, ainsi qu'un certain goût pour le romantisme noir et pour une certaine décadence. Donc il y a une recherche esthétique, artistique évidente dans la Cold Wave. Donc ce qui distingue particulièrement ce courant, donc c'est sa démarche esthétique, au niveau des visuels d'albums, des affiches ou même des photos promotionnelles. Pardon. Là, on voit le logo du label Infrastition qui s'est fait fort de rééditer beaucoup d'artistes Cold Wave des années 80 français. Donc dans ces visuels qui sont souvent utilisés dans la Cold Wave, on trouve majoritairement des paysages industriels et urbains en friche ou en ruine. Lorsqu'il s'agit de paysages naturels, ils sont tout aussi déserts et désolés. Le noir et blanc est prédominant, ainsi que les formes géométriques épurées, ou les images tirées de films en noir et blanc muets, relevant souvent du style expressionniste. Donc tous ces visuels dégagent bien entendu une grande froideur, un spleen, une profonde mélancolie, voire une certaine nostalgie toujours d'un passé plus ou moins idéalisé. Il y a dans la Cold Wave toujours, on le voit, une fascination pour tout ce qui est dépouillé, rigoureux, passéiste, austère. Et donc le mouvement se nourrit aussi bien d'inspiration cinématographique et plastique, on le voit là, que littéraire, puisqu'on croise souvent dans les paroles et les titres des chansons des références aux cinéastes Murnau, Tarkovsky, Fassbinder et à des écrivains et poètes comme Mayakovsky, d'où le titre de l'album de Complot Brunswick, Franz Kafka, Rimbaud, Antonin Artaud, et sont également cités tous les auteurs du romantisme noir et du roman gothique en général. passe maintenant à la dernier courant, c'est la musique industrielle, qui se base sur la recherche sonore et la transgression. Donc officiellement, on pourrait dire que la musique industrielle, elle est née en Angleterre en 1977, avec les premières performances sonores et visuelles du groupe Strobing Gristle, qui a créé son propre label indépendant, qui s'appelait Industrial Music, et dont le slogan était « Industrial Music for Industrial People ». Dans son livre éponyme « Industrial Music for Industrial People », l'auteur français Éric Dubois explique, je cite, « Le mouvement industriel est le parfait contemporain du punk, contemporain mais sans grand rapport avec celui-ci. La musique industrielle telle qu'elle a été inventée et conceptualisée par Strobing Gristle a germé dans les esprits issus des milieux artistiques, notamment ceux liés à la vague happening de la fin des années 60, et présente donc par là un caractère nettement plus intellectuel. » Donc personnellement, je nuancerai un petit peu cette affirmation en notant que certes, la musique industrielle ne ressemble pas au punk musicalement, quoique, et n'a pas forcément les mêmes origines, mais on va voir qu'elle entretient tout de même certaines accointances avec le punk. À commencer par la radicalité musicale, qui est un vrai credo dans la musique industrielle, qui a été portée au rang d'art dans ce courant. Pour mémoire, en 76, l'un des premiers groupes punk français, Métal Urbain, utilise déjà des machines à un côté industriel. Ils utilisent deux synthétiseurs et une boîte à rythme pour faire littéralement du bruit en plus, quoi. Comme l'explique Éric Desbris dans le livre Gnark Gnark, c'était, je cite, pour faire quelque chose de violent, de plus radical, qui va plus loin. Ensuite, on peut citer Lucrat Milk, qui a réellement démarré en 79, musicalement parlant, et qui a été associé à la scène punk française, mais qui était aussi dans cette volonté de jouer sur le bruit, sur la dissonance, les cris et l'utilisation détournée d'instruments de musique qui, des fois, n'en étaient pas. Donc on est là, finalement, vraiment sur la même ligne que la musique industrielle, dont la démarche est vraiment l'expérimentation sonore, le travail sur le bruit et puis la volonté de déranger, pour faire bouger les lignes, pour proposer une rupture avec les schémas classiques du rock. La musique industrielle est vraiment éminemment subversive et elle est au départ créée par des gens qui ne savent pas correctement jouer d'un instrument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont utiliser tout à fait autre chose. Ils vont utiliser des bandes magnétiques qui manipulent, des synthétiseurs qui sont à l'époque qui deviennent plus abordables à l'achat. Ils vont utiliser des séquenceurs, les premiers séquenceurs, ou encore des matériaux, carrément des matériaux de récupération, des outils, des tôles, des bidons, des perceuses, des marteaux-piqueurs qui vont utiliser littéralement comme instrument de musique. Donc là aussi, comme pour la Cold Wave, en France, on a une scène industrielle qui est également très très riche, très originale et très productive, et dont les pionniers sont Difform, qui a démarré à Bourg-en-Bresse dès 1977, Déficit des années antérieures, qui s'est formé à Caen en 79, Étant Donné, qui est né à Grenoble en 1980, Pacifique 231, qui est né à Paris en 1980, et Nox, un des derniers pionniers, on va dire, qui s'est fondé à Metz, en 1982. Donc, l'autre caractéristique de la musique industrielle et ce qui la rapproche du punk, c'est le fait qu'elle est en marge de la marge, on pourrait dire. Elle se base sur des réseaux de diffusion très confidentiels. Elle partage donc avec le punk des origines un côté extrêmement underground du fait de sa radicalité musicale et de son refus total à assumer des circuits classiques de production, de promotion, de distribution. En outre, la plupart des projets de la musique industrielle sont l'œuvre d'une ou deux personnes, beaucoup plus rarement d'un groupe au complet, ce qui rajoute encore un côté véritablement underground et même un certain anonymat. Les canaux de diffusion de la musique industrielle sont vraiment faits de micro-labels totalement indépendants qui sont même pour la plupart du temps montés par les artistes eux-mêmes. Ils sont faits aussi d'autoproduction au tirage très limité, donc souvent des cassettes audio, comme on voit là, des fanzines qui sont plus ou moins dédiées complètement à la musique industrielle, mais des fois les groupes industriels se retrouvent dans des fanzines punk. Et puis il y a les prestations scéniques qui sont souvent houleuses du fait même de l'agression sonore et visuelle et qui se déroulent dans des salles qui peuvent être aussi bien des squats que des galeries d'art. Donc là, on est plus que jamais dans la démarche do it yourself, vraiment propre au punk. Juste une petite parenthèse sur, quelques secondes sur le label culte, label et fanzine Sordide Sentimental, qui s'est créé à Rouen en 1978 sous l'impulsion de Jean-Pierre Turmel, qui a joué vraiment durant toutes ces années d'existence un rôle clé dans la diffusion de la musique industrielle et aussi de la Cold Wave en France. Et qui a eu des ouvrages qui lui ont été consacrés, même des articles encore récemment. Donc c'est vraiment, ça a vraiment été une structure culte qui a aussi organisé des concerts, etc. On pourrait citer aussi les disques du Soleil et de l'Acier de Gérard Nguyen, mais qui s'est monté un petit peu plus tard et qui a aussi beaucoup œuvré pour la diffusion de cette musique en France. La dernière partie sur la musique industrielle, c'est donc par rapport au thème, aux thématiques de la musique industrielle qui regroupe Eros et Thanatos. Hein, la provocation et la controverse sont vraiment les deux mamelles de ce style. Le courant de la musique industrielle se veut réellement sans concession, donc aussi bien musicalement, on l'a vu, que visuellement et thématiquement. Donc du coup, il aborde des sujets qui dérangent, tous les sujets qui dérangent, le nazisme, la folie, la torture, les tueurs en série, les guerres, les actions terroristes ou les déviances sexuelles, comme c'est notamment le cas de Difforme, qui a basé la majorité de son univers sur le sadomasochisme et le sexe déviant. Donc ce sont bien entendu des thèmes qui ont souvent prêté à controverse, on l'imagine, notamment parce que la façon de les présenter dans la musique industrielle n'est généralement pas partiale. Il n'y a pas forcément de dénonciation claire, c'est ce qui a pu être reproché à pas mal de groupes, parce que le but n'est pas de porter un jugement, c'est d'explorer tous les aspects les plus sombres, les plus noirs de l'humanité, de l'âme humaine en fait. Toutefois, bon, en France, c'est un peu moins prononcé peut-être à ce niveau-là que dans les pays anglo-saxons ou allemands. La majorité des groupes industriels français qui sont nés entre la fin des années 70 et le début des années 80 vont se rapprocher plus volontiers des formes les plus radicales de l'art contemporain, pour lesquelles d'ailleurs la plupart des musiciens issus de la mouvance musique industrielle vont finir par travailler. Beaucoup vont être amenés à travailler régulièrement pour l'art contemporain, voire pour la danse contemporaine. Donc, pour conclure, on peut dire que c'est des mouvements qui, ces trois mouvements, enfin principalement, on va dire la Cold Wave et la musique industrielle, qui ont été souvent vraiment méprisés dans les années 80, hein, mais dont l'influence finalement s'est vraiment pérennisée et dure encore aujourd'hui. En fait, si le post-punk a rapidement, comme on l'a dit, bénéficié d'une certaine reconnaissance de la part des critiques rock, la Cold Wave et la musique industrielle ont été globalement vraiment méprisées par la presse rock dominante, par une partie aussi du public, mais ils ont en même temps représenté finalement pour toute une frange du public indépendant. Tout au long des années 80, ces deux courants ont représenté une sorte de vrai bastion de résistance au rock classique et à la musique qui faisait la une des magazines. Donc au final, Tout comme le punk, ces musiques qui ont été décriées à l'époque pour leur caractère trop marqué et pour leur technicité limitée, ces musiques ont fini par connaître une étonnante longévité et ils ont représenté une influence majeure, on l'a dit, sur une grande partie des musiques indépendantes de ces 30 dernières années, encore aujourd'hui, comme le prouve, hein, on en a quelques exemples ici, le revival post-punk et cold wave de ces 10 dernières années, en France comme à l'étranger. Donc on voit là pas mal de groupes qui sont un peu populaires chez nous depuis ces dernières années et qui sont ouvertement influencés par le post-punk, la cold wave et la musique industrielle. Voilà, merci.
J'y connais rien, mais pourquoi tu parles pas du Baos, par exemple?
Le mouvement Baos.
Ouais, au niveau de l'influence.
Effectivement, je l'ai pas cité, mais ça fait partie des influences artistiques comme le constructivisme soviétique aussi. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de choses à citer. Bon, Baos, évidemment, puisque c'est aussi le nom d'un groupe. Ouais, mais oui, ça, oui, ouais. Ça fait partie de toutes ces choses très dépouillées, rigoureuses, austères, qui ont marqué ces artistes-là, quoi.
Alors, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais quand tu parlais, par exemple, du succès d'abord critique et ensuite populaire de Taxi Girl, reconnu par les médias musicaux mainstream, il y a quand même un truc, moi, que je vois, c'est que le pouvoir, entre guillemets, de ces magazines, comme Best Rock and Folk à l'époque, il a été pris par des gens qui ont déjà 25 ans,
ouais.
Et pour qui le punk, la continuité du punk primaire... ne compte pas.
Ouais.
Et du coup, eux, ils sont attachés, ils reconnaissent des nouvelles formes musicales qui seraient la continuité du punk, mais plus inventive.
Oui, oui. Donc
je pense
plus...
que ça a beaucoup compté quand même.
Oui, oui, sûrement. Et c'est, oui, c'est ça qui a fait que, tout ce que, bon, le post-punk, c'est finalement un terme très générique, surtout en France, quand on voit les groupes qui sont cités, notamment dans le livre des Jeunes gens modernes, où il y a des groupes synthétiques, où il y a Élie et Jacquenot. Enfin bon, c'est très fourre-tout. Et effectivement, on est loin du punk primitif et on est plus vers quelque chose d'un peu plus acceptable, justement par toute cette frange-là des critiques musicaux, quoi. Et c'est pour ça qu'après, la Cold Wave, je pense, a vraiment représenté aussi l'underground, finalement, en opposition. Parce qu'au départ, on parlait de la Cold Wave aussi dans le post-punk, des artistes qui, comme les premiers End of Data ou des groupes comme ça, étaient un peu considérés aussi comme des nouveaux, des jeunes gens modernes. Et puis rapidement, il y a eu vraiment ce mouvement Cold Wave franc qui a fédéré un public qui n'adhérait pas au côté plus pop et plus acceptable, finalement, de ce qu'était devenu le post-punk.
Il y a un autre truc, c'est vraiment très anecdotique, je n'avais jamais remarqué avant, mais le logo de Sordide Sentimental, on dirait le logo à l'époque de Hollywood Chewing Gum. Non, mais vraiment, quoi.
C'est fort possible, mais ça peut être un détournement. On est dans l'art contemporain.
Bon, moi, j'ai aussi peut-être une petite question. Ouais, je suis là.
Ouais.
J'ai trouvé aussi intéressant, justement, on voit à quel point, ce qui était un peu la théorie du livre de Simon Reynolds, qui est vraiment le punk, puis à partir de ça, ça va égrener, donc on voit qu'il y a certaines choses qui sont reprises, des fois c'est le mode de production, do it yourself, d'autres fois c'est plutôt un rapport désenchanté avec la société qui n'a pas d'avenir, ouais. Avec la code, voilà, comment ces différentes choses, et puis où ces différents mouvements aussi essaient de réanimer peut-être. Des éléments qui trouvent que se sont perdus dans le punk, par exemple la radicalité musicale avec l'indu. Et justement, ma question, c'est est-ce que, selon toi, on peut quand même voir des liens entre le punk et le post-punk ? Est-ce qu'il y a des échanges au niveau des concerts ? Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des groupes qui ont commencé comme punk pour ensuite évoluer vers ces autres styles ou pas tellement, où il y a vraiment une césure de génération ?
Oui, oui, même en France, je sais, on en avait parlé avec Philippe, il n'est pas tout à fait d'accord, mais Stinky Toys, par exemple, qui a quand même donné naissance à Élie et Jacquenot assez rapidement, finalement, où c'est Jacquenot et Élie Medeiros qui étaient déjà dans Stinky Toys, qui étaient considérés comme un groupe punk, et qui après, Jacquenot a fait de la musique synthétique, et après, il y a eu Élie et Jacquenot, et du coup, finalement, c'est aussi pour ça qu'il continuait à être suivi par les rock critiques. Et ce que j'ai d'autres exemples, mais oui, non, je pense qu'il y a effectivement une continuité. Quelque part chez ces groupes-là.
C'est comme tous les styles, en fait, tous les sous-styles qui sont nés du punk, au départ, c'est des gens qui ont été punk et qui
oui,
font.
Voilà.
Et après, il y a forcément des gens plus jeunes qui n'ont pas connu le punk. Je pense que c'est valable pour tous, à peu près. Hein.
Oui, tu nous as parlé de l'aspect intellectuel, en fait, presque, comment dire, institutionnel, qui se retrouvait parfois chez certains groupes. Mm-hmm. Que ce soit par la peinture, on avait un tableau de Goya pour une pochette, par la littérature, la poésie, etc. Et moi, je me posais la question de savoir, pour la musique industrielle, s'il n'y avait pas aussi finalement une revendication, d'une institution aussi musicale, si on prend en considération déjà le fait que, si on prend les expérimentations, je ne sais pas, de John Cage, par exemple, de la musique de Arthur Honegger. Alors là, c'est avec orchestre, mais on a cet aspect de répétition, on a cet aspect industriel, ou même si on va encore avant, avec Edgar Varèse en France, qui découpait déjà des bandes magnétiques, ou Stockhausen, etc.
Ah oui, c'est une référence. Oui. Voilà, ils ont beaucoup flirté aussi avec, j'ai parlé de l'art contemporain, mais avec certains sont même devenus des compositeurs de musique contemporaine. Ils ont flirté avec la musique contemporaine et la musique industrielle a pu prendre naissance aussi, comme on l'a dit, avec grâce au punk, parce que c'était devenu plus facile de faire de la musique si on n'avait pas de formation musicale, et puis on pouvait trouver des réseaux de distribution, on a pu faire des labels indépendants, des fanzines, des choses comme ça. Mais après, eux, et c'est là où je rejoins peut-être Éric Dubois, effectivement, c'est quand même un mouvement qui est issu aussi de tous les happenings des années 60-70 et de toute la partie art contemporain et musique expérimentale encore antérieure à ça, qui a effectivement nourri ces musiciens-là. Je crois que c'est peut-être la conjugaison des deux, en fait, du côté expérimental, art contemporain et finalement la démarche du punk pour sortir complètement du schéma institutionnel.
En tout cas, au niveau des thématiques, il y a des liens qui me paraissent assez forts avec même avec le futurisme italien, en fait.
La violence,
la rupture, le bruit, donc c'est aussi des choses qu'on retrouve là-dedans.
Oui, ça reste une référence, le futurisme italien, l'art des bruits, complètement. Là, je me suis concentré sur la scène française, mais... oui, on aurait pu parler de... Alors, en fait, Neubauten est apparu peut-être un petit peu après Robin Grissol. Donc, historiquement, c'est vraiment le terme musique industrielle. Il a été originellement utilisé par Robin Grissol. Mais effectivement, toute la scène allemande, Neubauten en tête, c'est encore une part hyper importante. Mais bon, là, je voulais vraiment me concentrer que sur la France, quoi. Oui, bah ça, après, il y a eu... c'est le lien avec le punk.